C'est exactement la même chose pour les outils numériques. Vous avez bien compris que nos enfants, nos adolescents sont des enfants du numérique. Les Anglais, les Américains les appellent des « digital natives ». Donc ils sont nés avec, ils utilisent les objets connectés mieux que les adultes. On en parlait hier soir, ça a inversé complètement le processus éducatif puisqu'ils savent mieux utiliser les outils numériques que leurs parents et encore plus que leurs grands-parents. Mais cette dépendance à l'objet connecté que les parents ont de plus en plus eux aussi, hein, faut quand même l'admettre, ne va permettre d'avoir une exemplarité à la maison que dans la mesure où les parents s'infligent à eux-mêmes les mêmes règles qu'ils soumettent à leur, qu'ils donnent à leur enfant. Exemple. Pour moi, un adolescent de moins de 16 ans ne doit pas dormir avec un ordinateur dans sa chambre, ni une tablette, ni un portable. Vous allez me dire, mais ça c'est très gentil, sauf que moi, quand je dis ça, dit cette maman, j'obtiens jamais rien. Et pourquoi est-ce que cette maman n'obtient jamais rien? Parce que maman joue dans son lit à Candy Crush, tandis que papa est au poker en ligne dans le salon. Et ça, ça ne va pas, voyez-vous. L'exemplarité, dans le mauvais sens du terme, ne va jamais permettre à l'adolescent d'accepter de dormir sans portable. Alors qu'est-ce que je préconise? Eh bien, si les adultes ne sont pas un métier de garde, ne sont pas obligés de rester connectés du fait de leur métier, l'idéal est de pouvoir mettre, et l'endroit le mieux c'est la cuisine, des socles de portables pour les mettre à recharger pendant la nuit, et accepter de dire que la nuit, les portables dorment aussi. Tout le monde pose son portable. À quelle heure? 22h30, 23h maxi. Et ça, ça permet beaucoup mieux, si vous voulez, d'accepter de ne pas dormir avec. Parce que sinon, les adolescents vont vous raconter qu'ils l'utilisent comme réveil matin, que c'est au cas où une copine les appelle, et le fait est que vous comprenez bien que si jamais Alexandra appelle Vanessa à minuit parce qu'elle vient de casser avec son copain, elles vont partir dans un chat infernal qui va faire que, aujourd'hui, le temps de sommeil de nos ados se réduit à cause de l'utilisation de ces outils et de la dépendance qui en résulte, alors même que les heures de rentrée scolaire le matin n'ont pas changé. Et donc il y a une compression, si vous voulez, temporelle, qui fait que nos ados dorment plus assez pour tous ceux qui vont garder les objets connectés branchés au-delà de 23 heures. Et je conseille moi-même 22h30. Alors là, je vais attaquer une catégorie de personnes qui, j'espère, vont accepter l'attaque, qui est une attaque gentille. Mais je vais attaquer les mamies. Aujourd'hui, le vrai pouvoir d'achat, c'est les mamies. Et tandis que maman a un Nokia diesel, qui marche encore très bien, elle dira, mamie a équipé ses petits-enfants du dernier Samsung Edge Galaxy 7 ou de l'iPhone, on en est au numéro 7. À 800 euros la pièce, quand même, hein, l'outil. Hein. Et elle croit bien faire en offrant ce cadeau à leurs petits-enfants. Eh bien, c'est une mauvaise idée d'offrir des objets hyper connectés et hyper haut de gamme aux enfants, alors que les parents ont des outils un peu moins reluisants. Parce que, alors que nos enfants sont géolocalisables du fait de ces outils merveilleux à 1,5 mètre près, si vous leur demandez vers où c'est le Moyen-Orient, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le monde parce qu'on leur montre plus de map monde. Donc un conseil aux mamies, et c'est ça mon attaque. Arrêtez d'offrir des iPhones et des Samsung, offrez-leur des lampes de chevet qui font map monde. Et des réveils matin mécaniques, parce que c'est vintage et c'est très à la mode aujourd'hui. Le truc qui fait tic-tac, et qui réveillent le matin parce que dormir avec un objet connecté, c'est en effet prendre le risque de, d'avoir envie de continuer. Alors, on parlait de la, du coup de téléphone de la copine qui a cassé, mais il faudrait évidemment parler des tablettes et des séries, puisque vous savez que nos enfants consomment essentiellement des séries plus que des films. Et les séries, bien entendu, les fabricants de séries font tout pour entretenir la dépendance et faire que, quand on a vu la saison 1, ben, il y aura la saison 2, et puis après il y aura la saison 3. Et d'ailleurs, et vous voyez comment on est. Moi j'entends dans le couloir de l'hôpital, j'arrive le matin, j'entends un médecin qui dit à une infirmière, « T'as réussi à télécharger la saison 6 ?»« Non, mais je suis encore à la saison 5. » Et donc ça, si vous voulez, c'est étudié, de toute façon, il faut l'avoir en tête, hein, c'est étudié pour rendre les gens dépendants à cette pratique, et nos ados, bah, évidemment, sous la couette, avec, un, avec une tablette, ils vont regarder toute une saison entière. Alors vous savez qu'un épisode, ça dure entre 45 et 50 minutes, donc si une saison comporte 5, 6 ou 7 épisodes, vous voyez le genre de temps qu'il va falloir consommer pour absorber la série et sa suite, et être, bien entendu, ensuite dépendant de cette pratique. Alors, le problème, quand même, c'est que, enfants du numérique, on ne peut pas non plus leur dire, parce que ça, ça existe, écoute, nous, on est contre tout ça, d'ailleurs, on est pour la bougie, on ne veut plus d'écran, on ne veut pas ni la télé, ni quoi que ce soit. Alors là, évidemment, c'est un discours qui est radical, et qui va poser des problèmes, parce que il faut bien comprendre que les adolescents, et encore plus dans le milieu de nos adolescents enfants de l'image, ont l'obligation, en quelque sorte, pour ne pas se faire rejeter par leur père PIRS, d'être conformes. Et du coup, celui ou celle qui va se retrouver sans rien, sans aucun moyen d'être connecté, qui n'aura pas jamais vu telle série, qui n'aura jamais vu telle ou telle émission ou telle chose, se retrouvera marginalisé par rapport aux autres. Et ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas un cadeau qu'on lui fait, parce que, évidemment, il ne pourra pas supporter d'être marginalisé comme ça, et il aura donc la tentation de mentir, de dissimuler et d'obtenir ces objets d'une manière éventuellement illégale. Et on en parlait ce matin avec les jeunes, je leur donnais un exemple de quelqu'un qui vendait du cannabis pour obtenir les sous, pour s'acheter ces objets qui étaient interdits à la maison. Et ça, c'est une règle éducative qu'il faut vraiment que les parents aient en tête. Attachez votre ceinture parce qu'elle est un petit peu raide à entendre. Chaque fois qu'un adolescent ment, dissimule, c'est parce que nous, les adultes, nous l'acculons à cette extrémité alors qu'on croit, au contraire, lui témoigner nos valeurs, notre attention, etc. Quand un adolescent ne cesse de mentir sans arrêt, c'est qu'on est... On a une attitude tellement fermée, tellement rigide, tellement empêchante, tellement impossible de négociation dans le dialogue, que ça oblige l'enfant à mentir. Évidemment, vous allez me dire, dans l'autre sens, est-ce que donc il faut tout le temps tout accueillir et tout accepter de la part de l'adolescent ? Bien sûr que non. Il faut définir les limites. Il faut se rappeler que les limites, c'est un espace, la limite au sens latin du terme, c'est l'espace, l'entre-deux, qui distingue deux territoires adjacents. Donc c'est un pan de territoire qui n'appartient ni à A ni à B, dans lequel il y a négociation pour que chacun définisse ses frontières réciproques. Donc, par exemple, ce que les parents doivent absolument faire quand il y a une fratrie d'un enfant de 13 ans et d'un enfant de 15 ans, c'est de bien faire la distinction de pratique, d'accès entre les deux âges. L'enfant, je vous dis n'importe quoi, l'enfant de 13 ans aura un forfait d'une heure, celui de 15 ans aura un forfait de 3 heures. Et ça, c'est normal. Et c'est reconnu comme tel par les adolescents. Ce qui ne va pas, c'est de traiter tout le monde à la même enseigne. Et une autre règle psychologique qu'il faut avoir en tête, c'est que non seulement les adultes convoquent le mensonge, mais ce sont les adultes, les parents, qui doivent gérer la rivalité fraternelle, car c'est comme ça, chez les humains, dans la fratrie, le premier mouvement affectif en dehors de l'amour porté aux uns et aux autres, c'est la jalousie. Et les parents, c'est à eux de gérer la jalousie dans la fratrie. Et pour gérer correctement la jalousie, il faut définir des règles, et il faut que les règles soient proportionnelles aux accès possibles en fonction de l'âge. Ça, ça me donne vraiment, si vous voulez, l'occasion de vous dire quelque chose de très important. On ne fait plus suffisamment de seuils, on ne fait plus suffisamment d'accès progressif à un certain nombre de pratiques. Et ça aussi, ça procède de l'addiction. C'est tout, tout de suite. Et tout, tout de suite, ça précipite le sujet dans le trop, dans le gavage, dans le remplissage, qui est évidemment la porte ouverte à toutes les addictions. Il faut favoriser les accès, les discussions. Un enfant de 12 ans ou de 13 ans qui veut un portable, il va falloir qu'il le négocie avec ses parents. Il va falloir qu'il explique pourquoi faire, combien de temps il compte s'en servir, avec qui, etc. Alors on va dire, ah ben c'est prise de tête, eh ben oui. C'est prise de tête éducative que d'élever un enfant. Il faut obliger l'enfant à exposer les raisons avec lesquelles il va utiliser telle ou telle chose. S'il a l'impression que c'est facile et que mamie, ça y est, mamie a lâché 800 euros dans le Samsung, ben, maman, qui gagne à peine un peu plus que ça en tant que caissière à Intermarché, elle va avoir, comme on dit, les boules, entre guillemets, parce qu'elle aura l'impression que ben on prend pas en compte aussi, elle, sa réalité. Vous voyez ? Il faut apprendre aux enfants à négocier les accès. Et un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est que l'argent ne tombant pas du ciel et les arbres à billets à 20 euros n'existant pas, ce n'est pas une bonne idée que de distribuer l'argent de poche à la volée aux adolescents. C'est normal de donner une petite somme qui doit rester raisonnable et elle aussi proportionnelle à l'âge. Et il faut vraiment s'employer à respecter ça au sein de la fratrie. Comment on définit la somme ? En en discutant avec d'autres adultes et en faisant une moyenne à partir des amis, des autres adultes qu'on peut connaître. On définit une certaine somme qui doit rester raisonnable. Toute somme supérieure à l'argent de poche devra être travaillée. On ne donnera pas 20 euros par-ci et 20 euros par-là à un adolescent parce que il va l'utiliser d'une manière qui ne respectera pas justement l'intégration des différents accès. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme travail à un adolescent ? Des travaux jugés pénibles par les adultes et qui ne relèvent pas de la communauté familiale. Mettre le couvert et débarrasser le couvert, ça s'appelle pas un métier, si vous voulez. Hein, c'est pas non plus un travail. C'est normalement une règle familiale partagée que tout le monde, à laquelle tout le monde doit pouvoir participer. Moi, je pense que laver la voiture, laver les vitres, tondre le gazon quand il y en a beaucoup, etc., ça peut relever d'un petit travail qui permettra à l'adolescent d'enregistrer que ce n'est jamais tout de suite, c'est tout ce qu'on veut au départ, qui doit ensuite être négocié pour passer de l'absolu au relatif. Sans quoi, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dérives, et on le voit vraiment dans beaucoup de familles, si vous voulez, où croyant bien faire, on gave les enfants avant même, d'ailleurs on devance même leurs désirs, en leur donnant des moyens qui sont disproportionnés par rapport à leur réel pouvoir et à leur réelle capacité à le gérer. Car le fond du fond, c'est d'être capable de gérer ses consommations. C'est aussi ça, hein, le rempart à l'addiction, d'être capable de gérer dans l'excès, si vous voulez, ces différentes consommations.